Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans Les Grandes Voix. Bonjour à Catherine, Michel Cottage, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Pierre.
Et
bonjour.
Programme de cette émission, incendie diplomatique entre Paris et Rome sur la question migratoire, après les propos très critiques de Gérald Darmanin à Giorgia Meloni, propos inqualifiables, voilà ce que dit le chef de la diplomatie italienne qui a annulé sa visite en France. Elisabeth Borne cherche l'apaisement. Que s'est-il passé? Maladresse ou message intentionnel après le report à l'automne de la loi immigration? Car enfin, ne sous-estime-t-on pas la gravité de la situation migratoire en Europe? Nous le verrons. Autre incendie cette semaine, celui du 1er mai. 1er mai marqué par la violence des Black Blocs, mais aussi par des propos eux-mêmes très violents de certains parlementaires. Faut-il préparer une nouvelle loi anti-casseurs? Nous poserons la question. Enfin, en Ukraine, la contre-offensive de Kiev se prépare de façon imminente. Les troupes s'organisent face à une armée russe à bout de souffle, en manque de munitions. Du côté du Kremlin, on dénonce un attentat contre Poutine et l'ancien président Medvedev appelle à faire assassiner Zelensky. Quelle suite? Dernier dossier à voir en fin d'émission. Vous avez le programme, le débat des grandes voix, c'est parti. C'était jeudi matin, Gérald Darmanin invitait des grandes gueules sur RMC, questionné sur les propos de Jordan Bardella concernant la gestion française des flux migratoires à la frontière franco-italienne, qui disait en substance que l'exécutif était impuissant et indifférent à la question. Gérald Darmanin d'abord répond que Bardella se moque du monde, et ensuite que c'est la faute des Italiens. Parce que, dit-il, Madame Meloni, gouvernement d'extrême droite choisi par les amis de Madame Le Pen, est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. Résultat, crise diplomatique entre Rome et Paris. Elisabeth Borne appelle maintenant à l'apaisement. C'est une bourde, Gérard Carrérou, de Gérald Darmanin, ou c'est plus ou moins intentionnel?
Alors écoutez, dans un premier temps, je me suis dit, je ne comprends pas pourquoi il nous fait ce numéro-là, M. Darmanin. Et puis après, je vais vous dire pourquoi, au contraire, je comprends trop bien. Je ne comprends pas parce que je regarde les faits. Je ne sais pas ce que donnera l'action de Madame Meloni sur ce sujet terrible pour l'Italie, comme pour la France d'ailleurs, de l'immigration incontrôlée. Mais ce que je vois, c'est qu'effectivement, elle en a quatre fois plus qui arrivent ces jours-ci que l'année dernière, à la même époque, que ça devient un problème. Alors évidemment, la réalité du pouvoir, pour quelqu'un qui ne l'exerçait pas, est difficile. On peut donc probablement lui faire des critiques sur ce point. Mais de là à nous faire, si vous voulez, le jeu, enfin l'éternel, on voit dans la poutre, on voit la paille et la poutre, si j'ose dire, et la poutre, elle est chez Darmanin. Quand on est Monsieur Darmanin, si on avait un bilan extraordinaire dans son domaine, extraordinaire, je dis bien, on pourrait se permettre de critiquer tout le monde, et Madame Meloni, entre autres. Mais quand on a fait le Stade de France, dont les Anglais, ce jour de couronnement, peut-être autre chose à penser, mais se souviennent encore. Quand on a fait le Stade de France, quand on fait Mayotte, qui pour l'instant est loin d'être un succès, on verra peut-être à la fin. Moi, je souhaite ardemment qu'il y ait un succès à la fin.
Merci la décision de la justice.
Quand on a un bilan qui est pour le moins mitigé ou controversé, on ne fait pas cette sortie qui risque... Bon, alors pourquoi? Alors vous me direz, dans ce cas-là, pourquoi l'a-t-il faite? Il l'a faite parce que M. Darmanin, à l'heure actuelle, est le ministre le plus politique de ce gouvernement, qui n'en a pas beaucoup d'hommes politiques de haut niveau, et donc il fait de la politique. Il est ouvertement un des possibles pour la succession de Mme Borne, et un des probables pour la prochaine présidentielle. Il taille son chemin, comme le taillait son chemin, pour ceux qui sont les plus âgés d'entre nous, Sarkozy, dans les années de début 2000. Donc, si vous voulez, il y a cette démarche hyper politique, et il a fait de la politique intérieure en faisant une sorte d'amalgame entre Mme Le Pen, qui n'a jamais été au pouvoir, et Madame Meloni, oui, qui l'est aujourd'hui, qui en disant d'arriver. Vous voyez ce que ça donne.
Mais c'est toujours casse-gueule.
Casse-gueule. Et ça va, à mon avis, se transformer en autre boudin, Catherine, pour Darmanin.
Oui, moi, personnellement, j'ai trouvé cette déclaration idiote du ministre de l'Intérieur, et je trouve qu'en matière de diplomatie, il n'a pas la main verte, et que c'est un récidiviste. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il attaque l'Italie. Déjà lorsqu'il y a eu l'Ocean Viking, vous savez, lorsque le bateau qui est quand même affrété par une ONG française, payé par des collectivités locales françaises, eh bien, le ministre des ports italien, que c'est M. Salvini, qui venait d'accueillir 4 bateaux quand même, a dit, bah, écoutez, celui-là, il n'a qu'à partir, en France. Et à l'époque, trouvait que ce refus de l'Italie, c'était inacceptable, inhumain. Darmanin avait accusé beaucoup Mme Meloni et ça avait déjà fait un incident diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères avait dit, enfin bref, c'était la crise. Mais là, il répond à Bardella. Ce qui l'a agacé, c'est que Bardella vienne à Nice, à Menton.
À Menton, oui.
Voilà, pour dire d'abord que cet accueil des jeunes migrants, comme on appelle les mineurs isolés, bien, il dit, ils ne sont pas plus mineurs que moi, je suis archevêque. Et puis, comme le ministre avait traité Mme Le Pen de petite femme politique, lui dit, mais il n'a pas la carrure, il n'a pas. Donc, je pense qu'il a piqué M. Darmanin, qui lui a répondu comme ça. Mais tous pour attaquer Mme Meloni, ça veut lui dire, quand vous serez au pouvoir, vous ne réussirez pas mieux qu'elle. C'est ça qu'il veut lui dire, pour montrer que l'extrême droite... Et c'est vrai que Mme Meloni, elle ne fait pas mieux. À partir du moment où un ministre d'extrême droite en Italie a voulu faire plus, c'est-à-dire Salvini voulait empêcher les bateaux d'entrer, eh bien, la justice italienne l'a condamné. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ?
Charles Villeneuve.
Alors moi, je trouve que cette querelle est totalement secondaire et sous-estime, et c'est le sens de votre question, de votre dernière question, est-ce que la gravité de la situation migratoire en Europe n'est pas finalement beaucoup plus importante que ces querelles de vestiaire, sincèrement, de vestiaire. Pourquoi ? Parce que la migration de masse, qui va déferler sur l'Europe, c'est la conséquence d'une démographie africaine qui est devenue complètement folle. C'est elle qui, en réalité, met en difficulté l'Afrique et va nous submerger. Je regardais les chiffres de l'AFAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Actuellement, là, aujourd'hui, il y a 23 millions d'Africains au Soudan, en Somalie, au Sahel, qui sont en situation non pas de pénurie alimentaire, mais de famine. Et ces 23 millions se dirigent à l'heure actuelle, ont pris le chemin de 2 ports libyens, Benghazi et Tripoli, pour évidemment, à proximité de la botte italienne, envahir l'Italie et déferler sur l'Europe. Et ces 23... Il y a actuellement 1,4 milliard d'habitants. Rien qu'au Niger, il y a 192 millions d'habitants. Parce qu'il y a eu des progrès notables en Afrique, notamment sur les grandes entreprises alimentaires, etc. 45% de progrès, ce qui est remarquable. Mais la démographie est de 115%. Observez l'écart. Entre 45 et 115%. 1,4 milliard. 2050, 5 milliards d'Africains. Comment vont-ils se nourrir par-dessus le marché avec la guerre Afrique en Europe entre la Russie et l'Ukraine, qui sont des greniers alimentaires, greniers de blé les deux. Le prix du kilo de farine, notamment en Égypte, 100 millions d'habitants, 100 millions, grands mangeurs de pain. Tout l'Orient est grand mangeur et débiteur de pain, pas seulement l'Égypte, tout l'Orient, avec ce qu'on appelle les pains ronds, vous savez, les robstaboun en arabe. Bon, eh bien, ça quintuplé le prix dans les petits commerces, etc. Et donc, rien que l'Afrique du Nord a augmenté ses budgets de 50% pour s'alimenter en blé.
Michel Cotard.
Bon, pour Charles a tout dit. Simplement, moi, je trouve que Darmanin, comme disait François Giroud, il n'a pas la manière. D'une façon générale, après tout ce qu'il dit, là, on aurait pu le dire de la même façon, on aurait pu le dire à Bardella, il n'a pas la manière, et quoi qu'il fasse...
Oui, mais il trace sa route, comme disait Gérard.
Bah, je ne suis pas sûr. Eh bien, justement, non, c'est ce qu'il veut faire.
Bah moi, j'en suis bien
mais
sûr.
À mon avis,
il essaie de tracer sa route, mais il ne prend pas la bonne voie.
Tracer sa route, ça ne veut pas dire qu'on réussit forcément.
Voilà. Alors, bien sûr. Et quand on voit, justement, si on fait le parallèle avec Sarkozy... On trouve pas. Sarkozy avait une certaine manière de dire les choses, y compris lorsqu'il était volontairement agressif. Là, on voit bien ce qu'il veut dire. On voit bien qu'il veut dire vous ne ferez pas mieux. Bon, mais voilà, ça se fait. Bon, deuxièmement, c'est vrai que c'est un problème européen. Je veux dire, je vois pas comment maintenant on peut considérer que la France contre l'Italie ou l'Italie contre la France peut faire quelque chose. Bon, c'est pas parce qu'à Menton il y a effectivement beaucoup de gens que ça change. Bon, l'Italie est vraiment en tête de pont. Bon, donc il faut plutôt l'aider.
Travailler ensemble.
Il faut plutôt travailler ensemble,
oui.
Y compris pour nous, parce que les deuxièmes, c'est
toute
nous, avec le volume de faute. Bon, donc ça ne se traite qu'à l'Europe. Moyennant quoi, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que l'Europe, quand elle voulait se répartir les migrants, a été complètement incapable de le faire.
Et ça, c'est une promesse
était,
en juin dernier.
Donc, c'était déjà en juin dernier.
Oui,
alors,
oui.
Je trouve que même en juin dernier, où la situation était relativement plus stable, ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord. Moi, je suis très inquiète sur, effectivement, le sud de la France et une majeure partie de l'Italie. Donc, ça ne peut se réduire, ça ne peut se résoudre qu'à Bruxelles et que dans un climat de concorde, quelle que soit Madame Meloni, dont pour le
Conseil. Mais pas en faisant notamment des surenchères de politique intérieure.
Mais voilà, on va en parler encore d'accord. Après une première pause dans les grandes voies, tout de suite.
Europe 1, Pierre de Villeneuve.
Pour les grandes voies, avec Catherine Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, on parle de cette crise migratoire qui existe en Europe. Vous l'avez vu dans le premier chapitre de cette émission. Je vous donne quelques chiffres. En 2022, Frontex, l'agence européenne de garde frontières et de garde côtes, a signalé 330 000 entrées irrégulières sur le territoire de l'Union européenne. C'est en augmentation de 64% par rapport à 2021. Les pays de l'Union européenne, la Norvège, la Suisse, ont reçu ensemble 966 000 nouvelles demandes d'asile en 2022. Juste avant la pause publicitaire, vous disiez tous, il faut que ça soit coordonné à Bruxelles. Mais le problème, c'est que chaque pays de l'Union européenne a une politique migratoire différente.
Oui, garde la maîtrise de sa politique d'immigration.
C'est
l'un des problèmes, parce que ce sont des politiques en réalité nationales qui n'a aucune passerelle avec les autres pays européens. Alors chacun a son immigration. L'Allemagne, c'est les Turcs. Et c'est pas la même chose en France, bien évidemment. C'est très différent. Mais pour autant, c'est
elle
aussi une immigration.
Elle a eu aussi les immigrés de Madame.
Non, mais il y a quand même un problème évident. C'est que
les Turcs,
chaque pays devrait être maître de sa politique d'immigration. Ah. Mais depuis, effectivement. La progression des institutions européennes, progression ou régression, quelle que soit la façon dont on les regarde, on voit effectivement que maintenant il est extrêmement difficile, voire impossible, de mener une politique d'immigration autonome. Mener une véritable politique autonome.
Exact.
Donc on ne peut faire qu'une politique globale travers des institutions. Mais on constate que pour mener une politique globale, il faut être d'accord sur un cap commun. Le cap commun étant, moi je suis de ceux qui pensent que le cap commun devrait être comment canaliser et limiter cette immigration dont Sarkozy nous dit à juste titre qu'elle ne fait que commencer. Ça serait bien si c'était le cas pour l'Europe. Mais l'Europe, dans son idéologie, ne partage pas cette volonté. L'Europe trouve que c'est une excellente, elle le démontre à chaque instant, c'est la meilleure chose possible, c'est d'avoir de plus en plus d'immigration en Europe.
La Commission
et les instances, judiciaires notamment, vont en permanence dans le sens de plus d'immigration. L'immigration, c'est bien.
Voilà.
Alors que la majorité des opinions publiques en Italie, en France et dans d'autres pays est plutôt attention, c'est pas bien. Au contraire, ça va mal.
Rappelons le pape qui vient de faire un voyage en Pologne et qui le dit, mais vraiment, accueillez des migrants.
Oui.
D'ailleurs, moi, je trouve que les migrants qui viennent sont en majorité des musulmans. Or, moi, faire venir plus de musulmans, pour le pape, c'est quand même s'enlever des parts de marché importantes pour les catholiques. Donc,
il n'est pas très commerçant.
Ce que ça veut dire,
j'en
reviens sur Madame Meloni. Elle a proposé quelque chose. Elle dit, au lieu de se disputer avec la France, il faudrait que d'abord tous les pays qui ont la Méditerranée en commun, qui est Malte, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la France, eh bien, on s'entende et qu'on pèse ensemble pour parler en Europe aussi. C'est vrai, si tout le monde était d'accord, ça serait déjà.
Il faudrait aussi, Catherine, établir un dialogue réel avec les pays africains. Et ça, on a laissé tomber, on a coupé beaucoup de cordons ombilicales. Parce qu'en Afrique, il y a eu des progrès considérables, notamment sur le plan des grands investissements alimentaires. Il y a eu ce progrès, 45% de plus, sauf que la démographie est exorbitante et qu'elle déborde complètement, évidemment, ce progrès.
La seule solution aussi, c'est d'arranger les choses depuis l'Afrique, parce que on dit, nous, on a l'impression que l'Afrique est un continent qui ne se développera pas, qui est en retard, etc. Et bien sûr que si, il se développe, ne serait-ce qu'avec l'aide des Chinois et des Russes. Oui. Hein, on s'en aperçoit. Bon, donc, au fond, la seule façon, c'est de fixer les Nigériens au Niger, c'est de fixer le maximum
ou qu'ils aillent en Chine.
Oui, mais... Non, mais ça, ils n'y vont pas, parce qu'en plus...
Les Chinois ne sont pas favorables à l'immigration.
C'est plus difficile.
Oui, mais c'est difficile, parce qu'une enquête qui a été faite dans un certain nombre de pays de jeunes Africains, entre 18 et 25 ans...
C'est eux qu'il faut persuader.
52% d'entre eux ont répondu en disant que leur avenir... Se situe en Europe.
On les entend tous les jours.
À partir de là, c'est une vague. Oui. 52% de millions de jeunes en âge de partir ou d'aller travailler.
J'ai une réponse là-dessus.
Oui, tant mieux que tu aies une réponse.
J'ai une réponse parce que cette réponse vient du fait que ces pays, notamment politiquement, sont extrêmement corrompus, souvent totalitaires. Et pour desserrer cet étau-là, alors on verra évidemment dans quel sens ici ce sera productif. Il faut savoir que la Chine a décidé sur le plan budgétaire d'investir 200 milliards. Elle vient de doubler la somme.
400 milliards.
400 milliards d'euros. Donc tout à l'heure Catherine disait entre les Russes et Michel aussi, les Russes et les Chinois vont peut-être fixer et développer ces jeunes Chinois. J'en suis moins sûr. Je rappelle par exemple, petit pays que je connais bien, la Mauritanie, 4/5 désertique. 231 000 habitants en 1920. Vous savez combien aujourd'hui ? 5 300 000. Où ils sont
On ne peut pas les tuer. Donc il faut bien
50% sont en Europe.
Il faut bien au moins avoir une politique africaine qui se débarrasse quand même des régimes corrompus et qui en plus fasse des villes, des constructions. Il y a assez d'espace, il y a assez de ressources pour essayer de les financer. La démographie va plus vite que les réalisations. Alors on n'y peut rien.
Je vais y arriver. Les grandes voix se poursuivent. Une nouvelle pause. Je vous signale juste que demain à 10h, vous retrouvez Sonia Mabrouk pour le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, entouré de Stéphane Dupont des Échos et Mathieu Bock-Côté. Sonia recevra ce dimanche Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, c'est l'entretien sans concession chaque dimanche de 10h à 11h sur Europe 1. A tout de suite pour les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
10h30 sur Europe 1 et retour du plateau des grandes voix avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Avant d'aborder la question des violences dans les manifs, notamment la violence dans les manifs du 1er mai qui ont blessé plus de 400 policiers et ce policier gravement brûlé, on l'a vu sur toutes les images. Peut-être abordant la question des retraites elles-mêmes du texte. L'intersyndicale donne rendez-vous pour une nouvelle journée de mobilisation et de grève le mardi 6 juin, deux jours avant le vote sur la proposition de loi du groupe Liotte pour abroger la loi sur les retraites. De son côté, Madame Borne demande une réunion le 16 et 17 mai avec les syndicats. Est-ce qu'il y a encore une chance de faire quoi que ce soit, Michel Cotta ?
Oui, il y a toujours une chance.
J'aime beaucoup votre soupir, c'est déjà une première réponse.
Non, parce qu'en réalité, la question qu'on se pose les uns et les autres, et bien malin qui pourrait y répondre, comment s'achève cette crise-là ? Est-ce qu'elle s'achève comme ça, par... en eau de boudin, comme vous avez dit tout à l'heure, mais alors sur un tas de mois, et c'est quand même une paralysie. Ou alors... dans ce cas-là, il faudrait que les syndicats participent, par exemple, à la réunion proposée par Madame Borne. Ils ne sont pas tous, pas tous les syndicats. Donc, ça serait un espèce de continuum qui irait vers la paix. Moi, je trouve quand même que c'est... On a beau dire que pour la réforme de Sarkozy en 2010, il y a eu beaucoup, beaucoup de réunions, et c'est vrai... Je trouve que c'est plus lent que ça, c'est plus enraciné, le vocabulaire est plus violent. Et j'ai beaucoup de doutes sur la fin de ce mouvement et surtout sur la possibilité qu'aura le gouvernement d'engager un certain nombre de réformes qui soient évidentes, alors que pour le moment, les syndicats quand même restent très très divisés et très hostile.
Gérard Carrero.
Oui, vous savez, j'aime beaucoup, moi, comme la phrase de Thorez, il faut savoir terminer une grève. Oui. Il y a beaucoup de gens, probablement, aujourd'hui en France, quelle que soit leur opinion, qui se disent, il faut savoir terminer un conflit, en l'occurrence, une réforme sur les retraites, etc. Ça, c'est ce qu'on peut se dire. Dans l'intérêt d'un pays, ça a duré quand même longtemps. Mais on finit par être soi-même prisonnier d'un certain nombre de choses. Prenez les syndicats. Les syndicats dont on nous disait, en France, ils sont plus ou moins maintenant inexistants, ils ont très peu d'adhérents, ils sont incapables de faire des... Bon, ils ont démontré, et ils ont même été les premiers surpris probablement de leur action et de leur unité d'action, et ils ne peuvent pas trouver les voies et moyens pour s'arrêter. Du coup, ils se raccrochent à toutes les branches qui passent. Alors, il y a eu les branches du Conseil constitutionnel, la première, hop, et la deuxième, hop. Mais il reste le miracle, le miracle, qui est le vote du Parlement le 8 juin. Du coup, ils nous ont sauvés, on fait une grande manif à nouveau le 6, deux jours avant. Du coup, le délai entre maintenant, 1er mai, et nous sommes déjà le 6, regardez le couronnement, on avance, donc ça se rapproche du 6. Voilà. Mais on ne peut pas continuer à faire marcher un pays comme ça. Simplement, il y a une chose, c'est que ce qui est terrible, c'est le calendrier. S'il y avait une élection en France, quelle que soit sa nature, mais une vraie élection, comme les Américains ont des midterms, qui polarise effectivement les gens, on pourrait les rattraper là-dessus. Mais il n'y a que les élections européennes dans un an et dont on sait qu'elles n'intéressent quand même pas énormément les gens. Donc, pour le moment, il n'y a pas de quoi... Du coup, le gouvernement est quasiment paralysé.
Oui, la question, est-ce que cette loi peut passer le 8 juin ? Parce que c'est la niche, elle vient dans la niche du groupe Liotte. Elle est présentée par Charles Amédée de Courson, qui a d'ailleurs fait voter la première motion de censure, et qui lui dit, c'est une niche, ils ont 24 heures. En réalité, compte tenu de l'organisation du Parlement, 13 heures dans l'hémicycle. Est-ce que ceux qui sont contre cette adoption vont faire de l'obstruction, multiplier les amendements pour faire que finalement, on n'arrive pas à la voter, ou est-ce que cette loi peut être votée ? Eh bien, pour l'instant, dans les calculs, il y en a beaucoup qui disent qu'elle peut être votée. Et d'ailleurs, le gouvernement est très inquiet.
Charles.
Oui, alors, la crise, cette crise des retraites, est-ce qu'elle est finie ? Gérard dit non, elle va continuer. Michel aussi pense que... Bon, mais est-ce qu'elle va faiblir ? Moi, je dis que l'intersyndicale va forcément passer à autre chose en exigeant des négociations, ce qui est le cas d'ailleurs le 17 mai. Et on va avoir à peu près les quatre thèmes qui ont été récusés par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire l'égalité de d'émolument de salaire homme-femme, c'est-à-dire l'emploi des seniors, c'est-à-dire les critères de pénibilité au travail. Et puis ils ont exigé aussi une méthode de négociation pour ne pas se faire rouler dans la farine. Peut-être que va mettre au point, et que le président de la République mettra au point avec eux, en tout cas par l'intermédiaire de la Première ministre, une sorte de calendrier de négociation pour avancer par un pas. Mais alors, est-ce que pour autant la crise est fermée ? Moi, je ne le crois pas, et je crois que les Français ont bien compris que Jupiter resterait Jupiter et que le pouvoir sera vertical, tel qu'il nous l'a montré. Il n'est pas descendu de l'Olympe, au contraire. Bon. Et la contestation, il s'expose à une contestation qui pourra à tout moment, compte tenu des fractures, ressortir. Et on ne sait pas à quel moment ça ressortira. C'est ça, justement, qui est difficile, même pour le chef de l'État. Parce que ressortira en même temps, évidemment, que la crise, en réalité, que les fractures, les violences. Parce que les violences... Quand on observe bien ce qui s'est passé dernièrement, c'est une organisation quasi militaire, avec des gens entraînés, presque, je dirais, militairement.
Juste pour terminer sur le chapitre Macron, la seule chose qui est passée, je vous rappelle, c'est quand même jusqu'à au 6 juin prochain, la seule chose qui est passée, c'est la réforme des retraites. Il y a quand même quelque chose qui reste, quelque chose qui finalement va rentrer dans les mœurs parce que
elle est promulguée, elle va s'appliquer.
Voilà. Et alors la seule chose qui reste, c'est qu'effectivement, ça n'a pas été... le recul, ça n'a pas été un retrait, ça n'a pas été une loi.
Ça a été promulgué, voilà, et maintenant, voilà. C'est 64 ans.
Voilà. Et tout ce que, réclament les syndicats...
Je fais une incidente, si tu permets, Catherine. Michel a raison. Il y a un fait qui est réel dans l'histoire du pays.
On l'a dit d'ailleurs dès le premier jour.
C'est que la réforme des retraites a été votée et qu'elle sera appliquée. Mais en même temps, cette réforme votée, qui sera donc appliquée, est génératrice... dans le pays, d'un ressentiment et d'une vague de fond.
On va y venir. Et c'est le chapitre suivant, et ce sont les violences. Et il est 10h37, et on se retrouve dans un instant, tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec Catherine May, avec Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, on en vient justement à ces violences qui ont débordé, et c'est un doux euphémisme, le 1er mai dernier en France, dans plusieurs villes, notamment à Paris. Charles Villeneuve, vous disiez que c'était ces Black Blocs, c'était militairement
quasi-militaire.
Structuré.
Non, j'ai discuté avec les gens, et notamment l'un des patrons de la Brave. Ils ont remarqué quelque chose, c'est que les parcours qui sont jalonnés, on les connaît, on sait quels sont les axes de déplacement des manifestations, eh bien, il y a un jalonnement en ce sens où il y a des caches,
notamment
des plaques d'égout.
Ce
n'est pas nouveau, mais c'est beaucoup
plus
perfectionné,
plus
organisé, plus coordonné, entouré d'avocats qui sont à disposition immédiatement des interpellations, d'infirmiers, de médecins. Qui suivent les Black Blocs, qui sont à dispo justement sur le plan juridique. Donc c'est
comme
une organisation,
en fait.
C'est une organisation absolument quasi militaire. Et en ce sens,
les Black Blocs qui veulent tuer des policiers.
Et en ce sens, en plus qui ont des munitions, donc qu'ils prélèvent dans les caches définies à l'avance, et partant de là, un jour ou l'autre, ce que vient de dire Catherine se produira. Se produira indéniablement, parce qu'on a déjà vu des scènes qui sont des scènes vraiment d'agression délibérée et qui peuvent tuer, qui peuvent brûler, comme on l'a vu, et qui ont brûlé. Et on a vu des gendarmes, on a vu des CRS, des policiers par terre, KO, transportés à l'hosto, à l'hôpital, etc. Et ça va certainement se reproduire.
405 policiers blessés, un grièvement brûlé, on a vu les images. Catherine.
Alors, je me demande si est-ce que la proposition, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'une nouvelle loi changerait quelque chose? Par exemple, comme il y a les interdits de stade, les interdits de manifestation.
C'est d'ailleurs, ceux qui demandent une manifestation prennent des responsabilités. Je veux dire, on leur dit, écoutez, vous avez le droit de manifester, mais ce droit est compliqué, vous êtes débordé par les Black Blocs, la violence, c'est eux qui l'amènent, et je veux dire, et ça continue. Il y a une responsabilité aussi des syndicats à appeler toujours à manifester, comme si c'était une chose ordinaire, comme si c'était un droit. Je veux dire, ça pose pour défendre. Quoi ?
Oui.
C'est un droit, mais est-ce que vous pensez aux gens qui sont sur les parcours de ces manifs, où les banques, les magasins sont pillés, sont cassés, les gens qui ne peuvent pas sortir, et pour qui c'est un enfer ?
Oui,
c'est-à-dire
Catherine...
qu'on transforme au nom d'un droit, eh bien, on prive beaucoup de gens du droit de
vivre.
C'est insupportable aussi. Qui les défend, ces gens-là ?
Le premier devoir d'un État, constitué, c'est la protection des citoyens. C'est le premier devoir. Justement, c'est à l'État aussi de prendre les moyens pour protéger ceux que tu désignes.
Ce qui est inquiétant, je voudrais quand même dire, dans la ligne de ce que vient de dire Catherine, elle a raison.
Mais moi, ça me révolte.
Elle a raison. Le phénomène grave, c'est pas que les bad blocs se soient multipliés, puisque on parlait en général de quelques centaines. On disait il y aura 200, je parle de manifestations précédentes, antérieure. 200, 300. Quand on arrive à des 1000, milliers, quand on parle maintenant à 1500, 2000, voire plus, quand on décrit effectivement une sorte d'internationalisation de ces groupes, ce n'est pas un noir et blanc. Quand vous regardez, moi j'ai bien regardé, comme tout le monde, les foules rassemblées. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement noir et blanc, c'est-à-dire les gentils, les syndicats, et les méchants, en noir, les bad blocs. Il y a tout un corps qui représente dans les manifestations peut-être un quart, un tiers intermédiaire de gens qui ne sont pas des violents au sens qu'ils n'ont pas des armes pour aller taper sur les policiers, mais qui sont sympathisants. De plus en plus, on a vu monter. Et on les voit, comment
en
on les voit
le deviennent.
Ils le deviennent, ils le sont déjà parce qu'ils restent aux alentours. Parfois, ils applaudissent. Parfois, ils font en sorte de protéger les bad blocs en les cachant, en faisant une sorte d'écran par eux-mêmes. Tout ça avec tout un ensemble de gens qui font semblant d'être des journalistes et qui sont en fait des agitateurs de la manifestation et ainsi de suite. Je dis donc qu'il y a un problème. Oui. La violence n'est plus l'affaire de quelques centaines. Il y a un phénomène de fond de violence et alimenté, alors là, pour le coup, par les politiques. Michel. Parce qu'on ne parle pas des politiques.
Non, moi, je me pose quand même la question des magistrats là-dedans. Je dois dire que je suis assez choquée par le fait qu'on arrête toujours des gens. Hein, et il n'y a jamais de conséquences, sauf très, très exceptionnellement, alors, de gens qui sont condamnés à une semaine. Tant qu'on n'attaque pas les bad blocs, il me semble, d'une manière à la fois policière et judiciaire, on n'en sortira jamais.
Oui, mais Michel,
Charlie Neuf,
les magistrats ont des textes à leur disposition, des lois.
Bien sûr,
or,
bien sûr.
Il est bien évident que quand tu traduis devant un parquet, tu le défères, un manifestant pris finalement quasiment en flagrant délit, il faut que tu démontres le flagrant délit et surtout tu démontres l'acte dont il a été l'auteur. Et très souvent, les magistrats avec lesquels j'ai souvent parlé,
j'ai bien compris, oui, mais
n'ont pas, si tu veux, les éléments constitutif suffisant pour appliquer la loi.
Il y en a un certain nombre.
Non, hein. C'est pour ça que, rappelle-toi, sous Pasqua, notamment, qui était ministre de l'Intérieur, une loi anti-casseurs avait été votée sur ce plan-là. Il est d'ailleurs question de refaire une loi anti-casseurs.
Les
magistrats appliquent la loi. Les trois quarts du temps, on ne peut pas en permanence les accuser d'être laxistes, etc. Il y en a, certainement.
Si tu permets, pas seulement, parce que je note quand même, et beaucoup de gens l'ont remarqué, comme par hasard, ce communiqué du syndicat de la magistrature, qui, quoi qu'on dise, représente 30% des magistrats. Oui. 30%, c'est pas rien.
C'est le poumon, en général, ce sont
parmi les couches les plus jeunes de la magistrature. Ouais. Et quand ce syndicat, en plein milieu de ce qui se passe actuellement, fait un communiqué pour dire, attention, il ne faut pas que nous cédions à l'encontre des violences sociales, c'est-à-dire, attention, il y a des violences sociales sous-entendues qui sont acceptables parce que ce sont des violences sociales. À partir de là, ça se traduit par les arrêts des magistrats et on ne peut pas faire semblant de dire, le code pénal, s'il était appliqué avec rigueur et systématisme, permettrait, dans beaucoup de cas, de condamner des gens que l'on ne condamne pas.
On marque une pause et dans un instant, on reparle de l'Ukraine et de la contre-offensive qui se prépare. À tout de suite avec les Grandes Voix sur Europe 1.
Les Grandes Voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie des Grandes Voix avec Michel Cotta-Catherine, Gérard Carreau et Charles Villeneuve. Mercredi, lors de sa visite en Finlande, Volodymyr Zelensky a confirmé l'imminence de la contre-offensive ukrainienne. La date, l'ampleur et les axes de l'attaque restent secrets. Mais nous avons des informations. Charles Villeneuve, à quoi va ressembler cette contre-attaque ?
À quoi va ressembler ? Il faudra attendre évidemment que ça se déroule sur le terrain et le coup d'envoi, si j'ose dire, de cette contre-attaque pour l'instant. Mais il ne faut pas s'attendre à un blitzkrieg façon, si vous voulez, 40, invasion de la France avec un déferlement des blindés appuyé par des hélicoptères Apache, hélicoptères d'attaque façon américain et tout. N'oublions pas que les Ukrainiens ont été formés et armés par les Américains, et notamment que cette guerre, cette la première grande partie de cette guerre a montré que les armes les plus efficaces étaient, aussi bien du côté russe que du côté ukrainien, l'artillerie. Bon, eh bien, dans cette artillerie, ce qui a tenu tout le front sur 1300 kilomètres, notamment de la part des Ukrainiens, c'est la fourniture par les Américains de deux éléments clés. Le renseignement, d'abord, un renseignement considérable auprès de 130 satellites de reconnaissance sur regard et film H24. Le dispositif russe et est transmis au centre d'opération des armées de Kiev à disposition de généraux Zaljouni, le chef d'état-major, et Sirski qui va conduire la contre-attaque. Et au milieu de tout ça, parmi l'armement, si vous voulez, dans cet armement supplémentaire d'artillerie, il y a les fameux missiles téléguidés, guidés aussi bien laser que par radio et que par satellite, des HIMARS. C'est une artillerie extrêmement précise qui tire à 90 km sur tous les renforts que les Russes ont construits et tous les centres de commandement. C'est ce qui, jusqu'à présent, a mis à défaut, ce qui a paralysé, neutralisé l'armée de Poutine. Ce sont surtout ces éléments-là. Eh bien, toute la nouvelle génération des HIMARS et la nouvelle génération des drones, notamment, qui larguent des munitions dites intelligentes, rôdeuses, ont été fournis. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne est dotée de cet armement de cinquième génération.
Ce qui fait l'originalité, si j'ose dire, de cette guerre d'Ukraine, qui dure depuis maintenant plus d'un an, c'est qu'elle a les apparences d'une guerre moderne, ne serait-ce que par les armes, et les dernières armes américaines qui ont été envoyées un peu partout en Ukraine sont maintenant efficaces. Mais en même temps, le fond de sauce, si j'ose dire, de cette guerre classique est une guerre à l'ancienne. Et elle est plus proche de cette guerre de 14, qui était, vous vous souvenez, nos images de jeunes hommes,
l'artillerie, l'infanterie.
L'artillerie, les tranchées, etc. C'est une guerre de tranchées. On a vu revenir, exact. Et les Russes sont très bons. Depuis Stalingrad, ils ont eu le temps de se préparer aux tranchées. Donc la guerre de tranchées, et c'est très bien expliqué par les militaires, c'est très difficile de faire ce qu'on appelle des percées offensives. Une percée offensive, c'est tout d'un coup, vous balancez vos blindés et vous faites une trouée sur une ligne de front et vous arrivez à conquérir d'un seul coup. Jusqu'à présent, pratiquement, depuis un an et demi, il n'y a presque pas eu de percée. Il y en a eu une ou deux, mais regardez Bakhmout, qui est le centre, c'est rien du tout, c'est une petite ville, mais qui est devenue un symbole de la guerre. Eh bien, dans cette ville-là, il n'y a pas eu une percée, ni russe, ni une percée ukrainienne pour la reconquérir. Alors, est-ce qu'il y aura, ce coup-ci, avec la contre-offensive, une véritable percée, ici ou là? Je n'en sais rien, Catherine. Mais c'est ça qu'il va falloir regarder.
Oui, il y a quand même ce qui différencie de la guerre de 14, c'est les drones qui changent tout. Et là, où est la supériorité entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui? Moi, je n'en sais rien, mais j'ai lu ce matin un papier dans le Figaro qui reçoit le témoignage d'un militaire ukrainien qui est sur le terrain et qui trouve que depuis quelque temps, les Russes ont beaucoup amélioré leur maniement des drones, en ont reçu de l'Iran et tout ça, c'est une guerre qui est très difficile et on ne sait pas. Alors, il y a l'histoire de la...
Mais les drones ont changé beaucoup de choses.
Oui, il y a la contre-offensive. Alors, on l'annonce. Est-ce qu'elle va avoir lieu? Est-ce qu'il y en aura une? Comment et où? Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que Moscou est sur la défensive. Parce que laisser croire par un petit drone comme ça envoyé depuis les environs de Moscou que le chef de l'État, c'est-à-dire Poutine, puisse être vraiment assassiné, c'est dire à la population qui, paraît-il, aime tellement son chef, regardez comme l'Occident nous déteste puisqu'on veut me détruire. Est-ce que ça marche, là, cette propagande? Est-ce que ça marche auprès de sa population? Peut-être que oui, mais est-ce qu'il a si peur que ça? Est-ce qu'il a peur de cette offensive? Est-ce qu'il va y en avoir une? C'est ça sur lequel on ne sait pas, parce qu'on l'attend. Alors tantôt, il y a de la boue, maintenant, la météo le permet, on n'en sait rien.
Vous avez le chef des Wagner aussi qui a dit qu'il n'y avait plus de munitions. Alors,
oui, mais on n'en sait rien.
Et on n'en sait rien.
On a appris que c'était faux. Voilà, ce matin, justement, dans un même article, en disant qu'ils ont été livrés de la même façon. Donc, il y a c'est une guerre auquel on ne comprend pas grand-chose, parce qu'on voit bien les limites imposées par les Américains.
Je ne suis pas d'accord.
Les limites sont quand même imposées par les Américains, c'est-à-dire les Ukrainiens. ils ont beau se défendre et récupérer leur, leur territoire, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'entrer. Ils n'ont pas le droit d'entrer en Russie. Ils n'ont pas le droit d'entrer en Russie par les Américains. C'est-à-dire que c'est quand même une guerre très difficile à maîtriser, parce qu'il faut à la fois... il y a des lignes rouges fixées par les Américains, et il y a à la fois des aides des Américains. Donc c'est très très complexe, et ça explique quand même souvent que les Ukrainiens cherchent des voies...
Michel.
Oui, tout est dirigé par les Américains.
10 secondes, Charles, parce qu'il faut
qu'on rende l'antenne. Non, Michel, l'affaire d'Ukraine, la guerre, est une affaire limitée au duopole. C'est les États-Unis et la Chine. Et l'intérêt des Chinois est de négocier avec les Américains, et l'intérêt des Américains est de négocier avec les Chinois.
Et c'est ce qui va se passer.
Et la deuxième chose par rapport à 14-18, ce qui a été dit tout à l'heure par Gérard, ce qui a mis en échec Poutine, c'est ce qu'on appelle l'ISR. C'est un redoutable système de traitement de l'information en temps réel et des armements de cinquième génération. C'est ça qui est très différent de 14-18.
Eh bien, moi, je terminerai cette émission en citant Solzhenitsyn. Nous savons qu'ils mentent, ils savent qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent, et pourtant... il persiste à mentir. Voilà donc cet épisode des Grandes Voix qui se termine. Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les Grandes Voix. Je vous emmène en Normandie avec la bande ce matin en Pays d'Auge pour faire le tour du cru. Il y aura de la crème, du beurre, du livaro et pas que. Et Joëstar nous rejoint pour cuisiner le maquereau juste avant midi. A tout de suite.
Bonne émission.